marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à l'histoire du rendez-vous mondial du cinéma. This is the mixture to start the picture, so bring
all the beautiful girls. Le Festival de Cannes, concours d'élégance et fête de la mer, flottille aérienne et porte-avions, réceptions et trophées. Le meilleur et le point de la production mondiale d'un art qui, chaque année, attire dans les salles obscures 13 milliards de spectateurs.
Bonjour Gilles Jacob.
Bonjour.
Vous qui avez été délégué général, puis président du Festival de Cannes jusqu'en 2014, vous qui avez pendant plus de 30 ans accueilli les stars du monde entier au palais du festival, vous évoquez la montée des marches comme une élévation vers la spiritualité. Que voulez-vous dire exactement ?
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille dans cette comparaison presque religieuse, l'ascension vers le paradis, vers les étoiles, etc., c'est le jour où Lars von Trier a monté les marches en ayant endossé le smoking de Dreyer. Dreyer, c'est un immense cinéaste danois des années 40, 50, 60, qui est mort maintenant, et il a légué son smoking à Lars von Trier, qui l'a mis, et qui a monté les marches et qui a raconté qu'il avait l'impression d'être poussé par l'âme de Dreyer. Alors je me suis dit, ça c'est une image magnifique, d'espèce de transmission entre générations, et on a commencé à évoquer cette montée des marches sous un tout autre angle, qui n'était plus seulement simplement des badauds qui venaient voir passer les comédiens, mais qui montait vers quelque chose. Alors, vers quoi ? La Palme d'Or, évidemment, vers tous les succès possibles et imaginables qu'on leur souhaite à tous. Et puis, tout d'un coup, ça s'est mélangé avec cette comparaison religieuse qui tient beaucoup, en effet, de l'ascension.
Une élévation religieuse, une élévation également humaniste, diriez-vous ?
Humaniste, spirituelle et surtout de défense des grands artistes. Parce que vous savez bien que dans le monde, et j'ai toujours vu ça en 38 ans de carrière, d'itinéraire plutôt que de carrière, les gens dans certains pays sont molestés, sont emprisonnés, on leur interdit de travailler. Ça remonte déjà aux années 70, où quelqu'un comme Vajda, quand il a fait L'Homme de Marbre, ou des gens comme Tarkovsky, étaient empêchés dans leur pays, on leur interdisait de montrer leurs films à Cannes. Et a commencé la bataille, qu'on a souvent gagnée d'ailleurs, mais pas seulement dans les pays de l'Est, puis ensuite le rideau de fer est tombé, et on a pu davantage travailler avec eux, mais dans d'autres pays, que ce soit l'Iran, que ce soit la Chine, que ce soit encore d'autres pays, où les artistes étaient empêchés. Et moi j'ai toujours lutté depuis ma première année, la deuxième en fait, où il y avait R de Miloš Forman, grand cinéaste tchèque des années 60-70. Et Miloš Forman était venu à Cannes avec R et il m'a dit « je veux faire l'ouverture ». Oh, mais pourquoi le film pourrait très bien être en compétition, pourquoi faire l'ouverture ? Et donc Miloš m'avait dit « au moins je sais, je pars voir ma mère en Tchécoslovaquie, je sais que si je suis retenu là-bas, tu viendras me chercher. » Et j'y serais allé d'ailleurs. Et puis ça s'est arrangé, il est revenu et on a pu faire l'ouverture commodément.
Au son de nos archives sonores, je vous propose de rembobiner le film du festival jusqu'à sa création en 1939. C'est Philippe Erlanger qui raconte, il est le premier délégué général du festival.
L'idée m'est venue dans un wagon-lit. Il y avait eu une grande bagarre au Festival de Venise, où je représentais la France, parce que M. Goebbels était intervenu pour fausser les résultats et peser sur les décisions du jury, ce qui avait provoqué évidemment une vive irritation, notamment de la part des anglo-saxons. On était à la veille de Munich, on s'attendait à la guerre. J'ai pris le train le soir même, j'ai pas pu dormir, il y avait beaucoup d'événements qui m'empêchaient de trouver le sommeil. Et c'est alors qu'il m'est venu l'idée que la place était maintenant libre pour un autre festival qui aurait été, à l'époque, nous sommes en 1938, le festival du monde libre. Le gouvernement était très divisé. Il y avait ceux qui voulaient ménager l'axe et il y avait ceux, au contraire, qui voulaient y résister. Finalement, Hitler ayant eu l'idée d'occuper Prague, ça a été très fâcheux pour la paix du monde, mais ça a déclenché le festival.
Entre les villes de Biarritz et de Cannes, le premier délégué général du festival, Philippe Erlinger, a dû choisir.
J'ai proposé au gouvernement de faire le festival Cannes. Ça a été accepté. Cela dit, on s'est mis à l'ouvrage, on a préparé ça fiévreusement, et le mois d'août 39 a été en somme le chant du cygne de l'avant-guerre. Ça a été un peu comme le dernier feu d'artifice d'un monde qui allait finir. Ça a été extraordinaire parce que j'avais organisé des fêtes qui devaient avoir lieu tous les jours. J'ai eu du mal un peu avec les Américains parce que ils avaient une idée fixe, c'était de construire Notre-Dame de Paris sur la plage de Cannes. Parce qu'il y avait un film tiré du roman de Victor Hugo, alors je leur ai expliqué que Notre-Dame au milieu des palmiers, ça ne serait peut-être pas très bien, enfin bon, pas besoin de vous dire ce qui s'est passé en réalité.
Le premier festival n'a donc pas eu lieu à Biarritz, mais à Cannes, dans l'ambiance tendue de la montée du national-socialisme en Allemagne et du fascisme en Italie, en réaction à la Mostra de Venise créée en 1932, ce qui n'a pas empêché les extravagances des Américains. Stoppé net par la Seconde Guerre mondiale, le Festival de Cannes renaît dès 1946 dans une France dévastée par des années de guerre et d'occupation allemande. Et j'aimerais justement que l'on évoque ensemble votre Seconde Guerre mondiale, celle que vous avez vécue enfant, car pendant ces années d'occupation, vous étiez réfugié à Nice et vous avez échappé de peu à une arrestation de l'armée allemande.
Oui. Alors nous étions en effet réfugiés dans un hôtel à côté de Nice cet hôtel avait été complètement fermé. Il n'y avait que 5 ou 6 personnes qui habitaient là, des réfugiés, jusqu'au jour où l'armée italienne est venue l'occuper. Parce que Nice était zone italienne d'occupation. Les Italiens étaient des gens charmants, pas du tout agressifs, vraiment... On les côtoyait, on leur parlait pas, mais ça se passait très bien. Jusqu'au jour où, en effet, l'armée allemande, ou plus exactement des nazis, de la Gestapo, est arrivée à encercler l'hôtel et a voulu emmener les juifs qui étaient là, réfugiés. Moi, j'avais 11 ans. Et mon frère, 13. Et on a été sauvés par le barman de l'hôtel, qui, chose extraordinaire, s'appelait Adolphe. C'est vous dire l'ironie de la chose. Et puis on a été emmenés dans une cave, puis dans une autre maison où on nous a hébergés, puis la femme de la personne qui nous a sauvés, l'un après l'autre, nous a emmenés en train jusqu'en Isère, où là, dans un séminaire qui a bien voulu nous accueillir, qui s'appelait l'Alumna du Saint-Rosaire, c'était des assomptionnistes, nous ont pris pour 3 ans, où on menait la vie des élèves séminaristes. On allait à la messe, on chantait la messe. Moi, je jouais de l'harmonium. Alors évidemment, je jouais plutôt Marinella ou des chansons de Tino Rossi que j'avais entendues à la radio d'avant-guerre que des hymnes religieux que je ne connaissais pas. Mais bon, tout ça s'est très bien passé jusqu'au jour où, et ça, Louis Malle le raconte très bien dans Au revoir les enfants, on est à nouveau encerclé, mais cette fois-là par l'armée allemande qui cherchait en fait, des résistants, des jeunes gens qui étaient dans la résistance. Mais tant qu'à faire, ils pouvaient embarquer des jeunes juifs en même temps. Et là, moi, je me suis caché, et mon frère aussi, sous l'harmonium, qui est devenu un piano dans le film de Louis Malle. Et nous avons été sauvés par le père supérieur, qui a en effet entrouvert la porte. L'officiellement est rentré, est ressorti. On a entendu le bruit de bottes, et puis ils sont partis. Donc on a, à deux reprises, failli être emmené, déporté, que sais-je.
Louis Malle qui a donc raconté votre histoire dans une scène du film « Revoir les enfants ». En 1946, J. Jacob, vous avez 16 ans. Le vrai premier festival, c'est le 20 septembre 1946. Un festival qui révèle « Rome, ville ouverte » de Rossellini, tandis que Jean Cocteau fait un baise-main à Michel Morgan en maillot de bain sur la plage devant les photographes.
Paris aujourd'hui est à Cannes. À Cannes, où dans l'arrière-saison lumineuse de ce premier été de paix, s'ouvre le Festival international du cinéma.
Le Festival de Cannes est une manifestation d'autant plus importante qu'elle est pacifique et internationale. La compétition est particulière en ce sens que la compétition existe entre les films d'une seule nation à la fois, c'est-à-dire que 6 films français s'affrontent entre eux. 6 ou 7 films américains s'affronteront d'autre part entre eux. Les films anglais s'affrontent également entre eux, les films soviétiques également. Mais dans chaque catégorie, il y aura un prix pour récompenser le meilleur film français, un prix pour récompenser le meilleur film américain, etc.
Chaque pays aura son Oscar national.
Chaque pays aura sa récompense, son Oscar qui est, du reste, une toile. On a renoncé aux éternelles coupes en vermeil pour des toiles de peintres français.
Tata, parce qu'en réalité, si vous reprenez les archives de l'époque, tous les films ont eu un prix. Alors, il y avait des dénominations différentes, mais quand il dit que c'était les films d'un même pays qui luttaient entre eux, oui et non, il y a eu le Grand Prix de l'Amérique, mais en même temps, tous les films américains sont repartis avec un prix. Et c'était très bien comme ça, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, on n'avait rien. Il n'y avait pas d'essence, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de métal, il n'y avait rien du tout. C'était de l'improvisation constante et le festival ne savait même pas s'il pourrait avoir lieu l'année suivante. C'était les balbutiements.
Et les prix, on l'a entendu, c'était des toiles de peintres français. Alors votre premier Cannes, Gilles Jacob, c'était en 1964 et c'est aussi le premier festival de Pierre Ricien, un grand homme de cinéma inconnu du grand public, mais essentiel dans l'histoire de Cannes. Comment vous pourriez le présenter ?
Ah, Pierre Ricien, c'est très simple. C'est un talent scout. C'est très exactement un cinéphile de grande qualité qui allait dans le monde entier et surtout en Asie pour découvrir des gens qui n'étaient pas suffisamment mis sous le projecteur par les grands festivals et par les pays du monde entier. Et c'est ainsi que, par exemple, un beau jour, moi, il était une sorte d'informateur et de conseiller, non officiel, mais très actif. C'est ainsi qu'un beau jour, il arrive chez moi et il me dit, écoutez, je voudrais vous montrer 3 courts-métrages d'une jeune réalisatrice complètement inconnue, néo-zélandaise, mais travaillant en Australie. Et il me montre les 3 premiers courts-métrages de Jane Campion. Il me dit, c'est bien le diable si vous n'allez pas prendre l'un des 3. Je regarde les films. Il y avait une telle cohérence, un tel style, un tel univers, que je dis, Pierre, je prends les 3. Ce qui était une première dans l'histoire des festivals. Et d'ailleurs, l'un des 3, pile, a eu la palme d'or du court-métrage. Ça commençait bien pour la carrière de Jane Campion.
Je pense qu'aujourd'hui, je suis sûrement un des plus anciens vétérans qui vont à Cannes.
Pierre Ricien est notre grand témoin sur RFI.
Mon premier festival de Cannes était en 1964, où j'ai accompagné Fritz Lang, qui était président du jury. J'étais encore un jeune cinéphile, plus si jeune que ça parce que j'avais 28 ans, mais encore jeune quand même. Et déjà, j'avais lié des rapports assez étroits avec Fritz Lang, mais il n'était pas tout à fait sûr de sa vision. Et ça lui permettait de pouvoir parler des films avec moi au cas où il pensait qu'il aurait manqué un détail. Donc, mon premier festival de Cannes était en 1964 avec Fritz Lang.
Le Grand Prix du Festival International du Film Cannes 1964 a été attribué au film Les Parapluies de Cherbourg, France.
De ne pas te trouver, je suis si heureuse d'être avec toi. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule.
Je me souviens, dès 64, on était une sorte de grande famille de, je sais pas, 100, 120 personnes peut-être, qui étaient des jeunes critiques, des directeurs de salles d'art essai, des distributeurs de films sur les salles d'art essai, et on était tout le temps ensemble. On était là, vorace, pour voir des films et en parler. On était tous ensemble. Le festival était relativement, c'était déjà un grand festival, mais relativement un beaucoup plus petit festival, beaucoup plus convivial, beaucoup plus familial. Maintenant, c'est une grande kermesse, si je peux dire. Alors, dans les choses, il y a toujours des pépites magnifiques et qui n'existeraient pas sans Cannes, mais on ne peut pas dire que c'est exactement le même festival.
Et en 64, Gilles Jacob, vous l'avez souligné en entendant cet extrait, vous vous êtes exclamé, le film a été hué.
Le film a été hué, je ne le savais pas.
Les Parapluies de Cherbourg.
Ça, mais visiblement, on entend bien les huées mélangées avec les bravos qui l'emportent finalement. Mais vous savez, la notion de sifflet, de huée au Festival de Cannes, elle est triple. Vous avez déjà des gens qui n'apprécient pas une sélection et qui donc s'expriment, que ce soit des journalistes ou du public, mais notamment pour des films qui sont provocants. La Grande Bouffe de Ferré, un film qui fait exploser les cabinets et où les gens meurent de trop manger, ça peut provoquer des mouvements divers, et Dieu sait si ça en a provoqué. Ça, c'est une chose. Après, vous avez les gens qui contestent le palmarès et qui sifflent, et c'est le cas des Parapluies de Cherbourg, où on contestait simplement non pas le film, mais le fait qu'ils pensaient que d'autres films auraient pu gagner. Et puis troisièmement, alors là, c'est plus sombre, vous avez des attachés de presse dont le film est aussi en compétition et qui font siffler le film des autres pour essayer de promouvoir le leur. Ça, c'est un peu plus nauséabond. Mais ça arrive aussi.
Et puis, il y a ceux, en 1968, qui font en sorte, justement, qu'il n'y ait pas de festival.
Ça, c'est politique.
Depuis hier matin, le palais du festival est transformé en salle de meeting. Jean-Luc Godard, Roman Polanski, Louis Malle, Truffaut, Enrico, Lelouch, Albicoco et bien d'autres occupèrent la grande salle de projection pour délibérer. Délibération assez houleuse, puisque aucun de nos cinéastes de génie ne se trouvait d'accord. Claude Lelouch paraissait le plus calme, Jean-Luc Godard, à son habitude, traitait tout le monde d'imbécile. Une controverse s'engageait alors entre Godard et Truffaut, le premier se prononçant pour des projections libres et populaires, sans distinction de salle, dans Cannes. L'autre se déclarant partisan d'une fermeture du palais, symbole du festival, avec des projections libres en ville. À 17h30, M. Favre-Lebret déclarait le festival terminé. À l'heure actuelle, le grand hall et les marches du palais du festival sont envahis par des spectateurs, producteurs et journalistes, qui réclament très calmement la projection des films étrangers. Et nous attendons qu'elle ait lieu. Ce qui paraît encore assez aléatoire, puisque nous attendons d'une minute à l'autre une manifestation d'étudiants.
Elle ne dit pas tout à fait la vérité, la journaliste, quand elle dit Jean-Luc Godard traitait les gens d'imbéciles. La phrase exacte, c'est « Vous êtes des cons ».
En 1968, le festival n'aura pas lieu. C'est le titre de l'un de vos romans. Gilles Jacob, une fiction très documentée où vous comparez Truffaut à Médor et Godard à un chat. Effectivement, Godard, qui dit très exactement « Les étudiants se font casser la figure par les CRS. Je vous parle de solidarité avec eux et avec les ouvriers. Vous me répondez « Travelling gros plan ». Vous êtes des cons, comme vous venez de le rappeler, Gilles Jacob.
Très juste.
Donc ce festival n'a pas eu lieu et vous avez réussi à documenter par la fiction cet événement.
Enfin, le titre, c'est « Le festival n'a pas eu lieu », mais il a eu lieu, simplement il a été interrompu en plein milieu. Et c'est surtout des films qui n'ont pas été montrés, et puis il n'y a pas eu de palmarès. Donc c'est un festival boiteux, le seul dans toute l'histoire du festival en 70 ans, qui a subi un tel choc, parce qu'il faut bien comprendre que l'idée de Favre-Lebret était très simple. Il disait « La France s'arrête, on le comprend très bien, tôt ou tard, le festival s'arrêtera aussi ». Lui aurait voulu aller jusqu'au bout à cause des étrangers, parce qu'il se disait toujours « Ça coûte très cher en temps et en argent pour les étrangers de venir à Cannes voir des films, vendre leurs films. Si on les renvoie chez eux, ils ne reviendront pas l'année prochaine. Et ils iront chez des festivals concurrents. Et ils défendaient son festival envers et contre tout.
La conséquence de 1968 sera-t-elle la quinzaine des réalisateurs, Gilles Jacob ?
Oui, alors ça a été l'une des conséquences. Vous savez, au départ, c'était une utopie. Tout ce que vous avez entendu tout à l'heure, le cinéma en liberté, on monte les films qu'on veut, on rentre dans les salles, tout est gratuit. Mais le cinéma, c'est aussi une industrie. Il faut aussi payer les créateurs, les techniciens, les gens qui fabriquent les films. Donc cette utopie s'est terminée par une chose qui était une section parallèle où, à l'époque, c'était les pays qui envoyaient leurs films au festival et qui choisissaient les films. Comme on l'a vu, des 46, ça a été jusqu'en 1972. Et la quinzaine, la SRF, Société des réalisateurs de films français, on se sont dit, au fond, ce sont des films académiques qui sont montrés, ce sont des films de petits copains des institutions locales. En Russie, on envoyait Bondarchuk parce que c'était un cinéaste bien en cours. Et nous, nous voulons montrer des jeunes, des découvertes, des nouveaux venus, du vrai cinéma d'art. Et c'est ce qu'ils ont fait.
« C'est la suite de la Marche du Monde spéciale Cannes avec Gilles Jacob aux commandes du festival du cinéma le plus important au monde pendant 35 ans. Gilles Jacob, vous avez été élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur par François Hollande, c'était en 2014. Le président de la République déclarait alors que vous avez permis à la France d'être fidèle à elle-même, car c'est quand la France accueille les cultures du monde, protège les artistes et se hausse au niveau de l'universel, qu'elle est la France. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Gilles Jacob, lorsque vous avez écouté les mots de François Hollande lors de cette cérémonie qui vous a distingué ?
Une fierté, une grande fierté, une émotion. Je trouvais qu'il n'avait pas tort. Mais en fait, c'est bien, c'est le festival qui est reconnu à travers moi. Et donc, moi je l'ai porté pendant 38 ans, Robert Favlebrel avait porté pendant 38 ans, maintenant ce sera Pierre Lescure et Thierry Frémaux. Et donc, la France a deux choses. Elle sait recevoir le monde entier, et aussi elle a le sens de la longévité. Quand les dirigeants ont un certain temps, et c'est valable aussi bien pour les présidents de la République que pour les présidents de festivals, ils peuvent faire des choses. Dans beaucoup de festivals, vous êtes là pour 4 ans. Renouvelable éventuellement. Si vous êtes là pour 4 ans, la première année, il faut y comprendre quelque chose. Les 2 années suivantes, vous travaillez. Et la 4e année, vous pensez à être renouvelé. Et donc, l'efficacité ne dure que 2 ans sur 4 ans, c'est pas beaucoup. Quand vous êtes, en principe, pour un certain nombre d'années, vous pouvez faire.
Lors de cette allocution qui vous a honoré, Gilles Jacob, le président de la République, François Hollande, a même ajouté « La salle de cinéma reste le lieu où le vivre ensemble est encore possible. Vivre ensemble qui est éminemment discuté en France aujourd'hui. » Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Mais oui, moi je suis absolument sur cette longueur d'onde. La salle de cinéma est unique. Parce que, par exemple, les jeunes gens qui vont beaucoup au cinéma vont là, entre amis, entre copains, entre amourettes, se retrouvent, voient les films, partagent des émotions. En sortant de là, ils les commentent. Et c'est ainsi qu'on arrive à créer le tissu social dont on a tellement besoin. Donc, je suis à fond pour le maintien et l'aide aux salles de cinéma. Parce que sinon, chacun va s'enfermer chez soi avec son petit ordinateur ou son petit téléphone portable. Et ça va être des gens isolés dans un monde où vraiment on a besoin de cohésion.
C'est bon, à plusieurs.
Nous reprenons avec vous le fil de l'histoire de Cannes version Marche du Monde, c'est-à-dire que nous nous intéressons à la dimension politique du festival et à la défense des cinématographies émergentes. Car ces années 60 ont vu à Cannes des films très marqués, comme par exemple M.A.S.H. de Robert Altman, Palme d'Or en 1970, ou encore Z de Costa Gavras. On peut peut-être redire un mot sur ces films.
Oui, alors ils sont très différents. Le film d'Altman est une comédie qui se passe à la guerre de Corée, où là, c'est fait pour choquer. En réalité, il y a 2 médecins qui opèrent, qui ont les mains dans le sang, hein, forcément, mais qui ne pensent qu'à une chose, c'est à jouer au golf et à sauter des infirmières. Alors, évidemment, ça fait rire. Il y a une scène incroyable où, pendant que, en effet, l'infirmière s'envoie en l'air, entre guillemets, le type branche ça sur le son de tout le camp militaire et tout le monde entend les ébats de la jeune femme. Bon, ça, c'est très drôle. Et en effet, c'est tellement rare d'avoir des grandes comédies à Cannes, aussi caustiques, que d'emblée, il a eu la Palme d'Or. Z, en revanche, c'est un film politique, c'est un film de défense de la liberté, la graisse des colonels, un petit juge intègre qui arrive à démonter tout un système, des généraux qui sont arrêtés à la fin, on est pris d'enthousiasme et on est emporté par le grand vent de l'histoire. Donc c'est des choses différentes, mais en même temps, c'est 2 films de grand talent tous les deux.
Gilles Jacob, vous avez rappelé qu'en 1972, la règle du jeu de la sélection est modifiée. C'est le Festival de Cannes qui choisit les films étrangers. Ce ne sont plus les pays qui décident des films qui vont les représenter à Cannes. Et puis vous devenez délégué général en 1978 dans ce festival qui vient donc de gagner cette indépendance éditoriale. Et vous créez la Caméra d'Or. Dans quel état d'esprit ?
Dès le début, j'ai compris, parce que j'avais 14 ans de critique derrière moi, que les grands metteurs en scène du monde entier étaient en train de disparaître, soit de mourir, soit d'être en retraite, soit de ne plus pouvoir travailler. Donc je me suis dit, il faut œuvrer pour le renouvellement des générations de grands cinéastes. Et pour ce faire, j'ai eu un plan cohérent, je pense, sur différentes années. La première année, ça a été tout de suite la Caméra d'Or, création d'un prix, d'un premier film dans n'importe quelle section du festival. Donc on lui remettait à l'époque une vraie caméra pour pouvoir tourner le film suivant. Ensuite, j'ai rassemblé les sections de Maurice Bessy en une seule qui s'appelait Un certain regard, qui était un complément légitime de la compétition proprement dite. Et un peu plus tard, j'ai créé la Ciné Fondation, qui sont trois volets, les compétitions de concours de films de fin d'études des écoles mondiales de cinéma, ça se passe à Cannes, la résidence de la Ciné Fondation, ça c'est à Paris, pour permettre à de jeunes créateurs du monde entier d'écrire un scénario pendant 5 mois, et le troisième volet, c'est l'atelier qui contribue à une aide financière pour faire des films, pour en effet tous ces jeunes gens.
Est-ce que dans ce cas, la Ciné Fondation ne participe pas à une forme de diplomatie à la française qui permet aussi du soft power, c'est-à-dire que ce sont des jeunes gens qui vont être donc biberonnés à la langue française, à la culture française, et desquels, j'imagine, vous espérez un juste retour?
Et c'est exactement ça. En réalité, on leur apprend le français, on leur apprend comment produire, les finances, et puis on les renvoie dans leur pays avec un scénario solide, avec toutes ces bases-là, dans l'espoir, en effet, retour des choses, qui viendront tourner en France, faire des échanges avec la France, et en quelque sorte, il y aura cet aller-retour culturel sympathique.
Révéler des cinéastes, soutenir leur liberté d'expression, les emmenant à Cannes, c'est aussi l'œuvre engagée de Pierre Hissien, un homme de cinéma qui est notre grand témoin sur RFI. Pierre Hissien a révélé le cinéaste philippin Lino Broca.
En 1975, j'ai amené Touch of Zen à Cannes. Ça a été un événement très important et qui a ouvert la voie au cinéma asiatique. Bien sûr, il y avait Kurosawa, voire Mizoguchi. Ozu était encore inconnu à l'époque, mais le cinéma asiatique, en général, était absolument inconnu. Par contre, la découverte, la révélation, plus que découverte même, d'un film comme Touch of Zen a embrasé l'intérêt des gens. Et donc, c'est à partir de ça que, 2 ans plus tard, aux Philippines, c'est là où j'ai découvert Lino Broca avec Insiang. Alors, je l'ai vu dans un quartier très populaire, dans une salle délabrée, comme sans doute beaucoup de salles aux Philippines, et ça rendait le film encore plus fort. Les premières images dans cet abattoir crasseux, on est pris tout de suite par cette violence, par cette brutalité. On est avec eux. Tout de suite, on est avec les personnages, ce qui est tout à fait exceptionnel. On est en empathie totale avec les personnages. Petit à petit, la tragédie se développe et on est de plus en plus avec eux, jusqu'au moment, je crois que c'est le moment le plus violent du cinéma, quand la mère tue son amant et celui de sa fille. C'est une violence, une brutalité, sans la moindre complaisance. C'est ça qui est extraordinaire, qui vous frappe. Et on reçoit des coups de couteau, on les ressent, et on ne voit rien. Il n'y a pas de sang qui jaillit, pas, comme chez Peckinpah. Et ça, donc j'ai été absolument saisi, sidéré, je ne sais pas quel est l'adjectif le meilleur. Et c'est un film des tripes, ou en américain, de The Guts, et très peu, il y a beaucoup du cinéma que l'on voit, peut-être brillant, peut-être séduisant, ce sont des films intellectuels quelque part. Par Bergman et Antonioni, ce sont des cinéastes de salon. Vous voyez, si vous prenez La nuit d'Antonioni, qu'est-ce que se disent Mastroianni et Jeanne Moreau? Ah, la vie est dure. On est seul dans ce monde. On n'a pas besoin d'Antonioni, de Jeanne Moreau et de Mastroianni pour savoir que la vie est dure et que plus ou moins on est seul dans ce monde, même si on a des amis très proches. Avec Lino Broca, on est dans la vie.
I like movies that pose questions.
J'aime les films qui posent des questions sur le peuple, sur les conditions sociales du pays.
It is easy technically for me because then
c'est facile techniquement pour moi de faire ces films, comme par exemple Bona, que j'ai tourné dans les taudis, parce que je me sens à l'aise avec ces gens.
The slum areas, I feel very comfortable in these areas. They're very natural for the cameras.
Ils sont très naturels devant les caméras, et donc c'est simple pour moi. Mais d'un autre côté, c'est plutôt difficile à cause de la censure, à cause du genre de sujet, parce que le gouvernement n'approuve pas le choix de tels sujets.
La voix de Lino Broca dans La Marche du Monde, c'est Pierre Hissien qui amène son film Insiang au Festival de Cannes.
En 78, j'amène le film à Cannes et on n'a eu aucun problème pour sortir le film, pour le faire venir à Paris et donc le projeter à Cannes. Par contre, le contre-coup de la projection de Cannes, c'est que Madame Marco, ça a été totalement furieuse. Comment, au lieu de montrer la beauté des crépuscules sur la Ben Manille, on montre ce qui est faux, ça n'existe pas. On voit bien que le film n'est pas tourné en studio. Enfin, Madame Marcos s'est audie, etc. Et du coup, Madame Marcos a fait instituer une censure pour la sortie des films.
The other directors should clear what,
et les réalisateurs doivent être clairs sur le rôle du cinéma, du tiers-monde. Et je pense que le cinéma du tiers-monde a une responsabilité entière, qu'il a un rôle évident, qu'il ne peut pas se fermer les yeux, qu'il ne peut pas refuser la responsabilité d'avertir le public sur tous ces problèmes.
'77, découverte de Lino. '78, le film vient à Cannes. '80, Jaguar. Je pense que ce qui était latent contre Marcos devient de plus en plus lourd, présent. Et commencent des manifestations. Les très grandes démonstrations ont été organisées par Lino Broca. Ce qu'on ne sait pas, c'est Lino avait acheté un matériel radiophonique pour pouvoir projeter ce qu'il disait. Il était monté sur un camion et parlait des très beaux discours, des très beaux pamphlets contre le régime Marcos. Il y avait 500 000 personnes. Et Lino était sur le toit du camion, parlait, s'adressait à tout le monde, à Force Park, disons un peu comme la place de la Concorde à Paris. Et j'avais à la fois la trouille, j'avais peur, parce qu'effectivement, on craignait des incidents. Et je me souviens que le lendemain, j'arrive à Sydney en Australie, et j'ai un message de mon ami Tico Yagilouz, qui était un jeune cinéaste, me disant « Lino vient d'être emprisonné ». On a tout de suite eu très peur, parce que dans une prison, tout peut arriver. D'autant plus que, comme bon, je crois qu'on peut le dire, Lino étant homosexuel, on pouvait créer une situation prétexte. Et donc, la première chose que je fais, c'est que j'avertis des amis dans le monde entier. Et donc, Bertrand Tavernier, à Paris, obtient de Simone Signoret qu'elle parle pour la libération de Lino Broca, la télévision française. Et finalement, Lino a été libéré après 3 semaines. Heureusement, ça n'est sauf.
La libération du cinéaste Lino Broca, demandée à la télévision française par Simone Signoret, ça aussi, c'est comme un moment fort de l'histoire du festival de Cannes, Gilles Jacob.
Oui, ben ça fait partie toujours de la volonté de libération des artistes emprisonnés. Ça a toujours été notre constance de tous les temps et on s'y tient beaucoup.
Et Lino Broca n'est pas le seul.
Non, mais bien sûr que non. On les a cités tout à l'heure, certains autres, mais il y en a beaucoup d'autres. Je ferai une petite observation. Je ne suis pas partisan d'opposer des metteurs en scène. C'est pas parce qu'on aime Lino Broca qu'il faut jeter au panier Bergman et Antonioni.
J'attendais bien votre réaction.
Ça n'a rien à voir. Dire ce sont des cinéastes de salon, c'est quand même un peu réducteur. Mais enfin, passons.
Gilles Jacob, je vous propose un autre regard sur le Festival de Cannes, celui d'un exploitant d'une salle à réessayer, car ce sont eux qui défendent au quotidien le cinéma d'auteur. Bonjour Frédéric Borgia.
Bonjour.
Frédéric Borgia, vous êtes le directeur de l'Institut Jean Vigo à Perpignan, près de la frontière espagnole, dans le sud de la France. Dans la marche du monde, nous nous intéressons à l'histoire politique de Cannes, hein, qui d'ailleurs à ses origines a été créée en réaction en quelque sorte à une mostra italienne, peut-être trop empreinte d'idéologie fasciste. En ce qui concerne votre souvenir politique fort de Cannes, quel serait-il ?
Il faut savoir que à chaque fois qu'un film est en compétition, chaque jour, le pays qu'il représente est mis, je dirais, à l'honneur. Et donc, je me souviens de la présence de Elia Souleymane, cinéaste palestinien, venu représenter la Palestine avec son film « Le temps qu'il reste ». C'était un moment fort parce que, voilà, c'est un pays qui n'est pas reconnu. Et donc, s'est posée la question de la montée du drapeau palestinien en plein Festival de Cannes, geste qui pouvait poser plein de problèmes. Et la Palestine, pendant un moment, a existé aux yeux du monde du cinéma, aux yeux du monde des cinéphiles, mais aux yeux du monde.
Frédéric Borgia, moi j'aimerais savoir ce que vous entendez par cinéphile.
C'est celui qui aime par-dessus tout le cinéma et que le cinéma aide à se construire, je dirais. les films, la pratique du cinéma m'ont vraiment aidé à me construire et à voir le monde par le prisme du cinéma.
Alors justement, quels sont les films qui vous ont ouvert sur le monde à Cannes ?
Les cinématographies des pays émergents qui m'ont vraiment marqué, ce sont les cinématographies iraniennes avec l'émergence d'Abbas Kiarostami, tout d'abord, parce que Abbas Kiarostami a fait le choix en tant que cinéaste de rester en Iran au moment de la révolution. Il a fait ce choix-là très fort. Il a continué à travailler pour l'Institut pour le développement intellectuel des enfants, une structure qui était quand même organisé par l'État. Donc il a fait ce choix de rester dans son pays parce que pour lui, un cinéaste qui quittait son pays était comme un arbre qu'on déracinait. Donc il a préféré rester avec tous les problèmes qu'il a rencontrés en Iran, mais aussi la protection, je dirais, que lui a apporté le festival de Cannes. Hein. J'aime bien revenir là-dessus parce que je pense que certains cinéastes ont été protégés par le festival de Cannes, ont eu une reconnaissance internationale, donc en termes économiques, ils ont pu trouver des financements pour leurs nouveaux films et ont été protégés en termes artistiques. Ils étaient reconnus, donc les gouvernements n'embêtaient pas trop ces cinéastes dans leur vie quotidienne.
Concrètement parlant, je n'ai pas besoin d'un prix pour me faciliter la vie, même si j'ai l'impression que celui-ci a plutôt engendré des problèmes. Car comme je travaille avec peu de moyens, je n'éprouve pas l'envie de changer de style, de méthode ou de pays. Cela dit, le fait que le cinéma iranien obtienne un tel prix après tant d'années et dans la situation culturelle et actuelle en Iran, il est indiscutable que ça a procuré une véritable joie aux Iraniens de l'intérieur comme de l'extérieur. D'autant plus que le mot Iran est rarement évoqué avec respect de nos jours. Dans ce sens, ce prix, sans vouloir prétendre quelque chose de particulier, ne m'appartient pas. Cette récompense est beaucoup trop grande pour appartenir à une seule personne. Je dirais même que ce prix revient autant au peuple qu'au cinéma iranien. Donc je n'attends pas de grands changements pour moi. Si cela n'entraîne pas de problème, cela me suffit.
La voix du réalisateur iranien Abbas Kiarostami, J. Jacob, presque 40 ans à la direction du Festival de Cannes, vous avez rencontré tous les grands cinéastes de cette planète et vous avez écrit que Abbas Kiarostami, c'est l'une des personnalités les plus importantes de votre vie. Et vous êtes extrêmement ému, je me permets de le dire.
Oui, parce que c'est quelqu'un que j'ai vraiment bien connu. Et c'est une personne, d'abord c'est un génie, et ensuite c'est une simplicité, vous avez entendu ces mots, ça ne m'appartient pas, ça appartient au peuple, et c'est pas simplement comme ça un discours de complaisance, pas du tout, il le pense vraiment. Il faut ajouter quand même que pendant toute une période, il n'a plus fait de film en Iran. C'est un immense photographe aussi, et donc ça, la photo, on peut pas vous empêcher d'en faire, et il a fait des photos qui sont magnifiques, qui sont du reste exposés de temps en temps à Paris. Il a écrit un livre qui est plein de maximes, de phrases morales, mais superbe. Donc c'est un artiste complet, c'est un artiste qui a tourné à l'étranger, qui a de plus en plus été vers une sorte de raréfaction, un peu comme Alain Cavalier, où tout d'un coup, pour obtenir sa liberté financière, on tourne avec presque rien. Et c'est ce qui se passe beaucoup en Iran, hein. Les films coûtent pas très cher, ce qui fait qu'ils ont la liberté financière, mais ils n'ont pas la liberté politique de pouvoir dire ce qu'ils veulent. Voilà.
Abbas Kiarostami, Palme d'Or en 1997, avec Le goût de la cerise. Oui. Redonnez-nous le goût de ce film.
Ah, Le goût de la cerise, c'est un itinéraire de quelqu'un qui veut se suicider et qui ne trouve personne pour jeter sur sa tombe je ne sais plus quel encens ou quel... il va rencontrer un certain nombre de gens qui vont tenter de le dissuader. C'est une idée magnifique. On parlait de solidarité, c'est vraiment le film de la solidarité. Et c'est fait avec une délicatesse, une tendresse, une humanité justement, qui est tout à fait extraordinaire.
Sachant que le suicide est interdit.
Absolument.
Frédéric Borgia, auriez-vous une question à poser à Gilles Jacob ?
J'aime beaucoup la définition que Gilles Jacob donne du Festival de Cannes, c'est-à-dire un festival en France. un festival qui se déroule en France, et ce festival ne peut que se dérouler en France, j'ai l'impression, parce que c'est, voilà, la France est un réceptacle de tout ce qui se fait dans le monde entier, et le Festival de Cannes sert en partie à ça. Donc la question que je souhaiterais poser à Gilles Jacob, c'est comment le Festival de Cannes peut encore rendre compte du cinéma mondial dans un contexte où le cinéma s'est mondialisé. C'est difficile aujourd'hui de dire d'un film s'il est de telle ou telle nationalité.
Mais justement, moi je ne souhaite pas qu'on définisse un film par sa nationalité. Vous savez, au tout début du festival dont nous parlions, on disait « le Maroc présente ». Le Maroc présente pour Othello d'Orson Welles, parce que pour des histoires financières, il y avait un petit peu de... Puis ça s'était tourné au Maroc, puis ça évitait d'en faire un film américain, Orson Welles. Pour moi, c'est un film d'Orson Welles. C'est le créateur, l'auteur, qui est la nationalité du film. Et comment arriver à maintenir l'universalité du festival? C'est en allant chercher dans le plus petit pays du monde un auteur qui va devenir un grand auteur. Il faut le découvrir, il faut le défendre, il faut le porter à bout de bras, il faut faire en sorte qu'il gagne 10 ans en notoriété en étant nommé à Cannes, sélectionné, voire primé, et c'est ainsi qu'on fait progresser. Quentin Tarantino, quand il a eu la Palme d'Or avec Pulp Fiction, il m'a dit « tu m'as fait gagner 10 ans de ma vie ». Ah bon? Et pourquoi? Je savais très bien la réponse. Ben, pour deux raisons. D'abord, je peux aller partout dans le monde. Je dis « je suis Palme d'Or », c'est un club. Et donc, ça m'ouvre la porte de partout. Et ensuite, pour les financements, évidemment. Alors, le risque de ça, la Palme d'Or, c'est qu'on ait la grosse tête. Et que, par exemple, Scorsese a dit, après Taxi Driver, que les deux films suivants, comme il avait la grosse tête, quand il les regarde aujourd'hui, c'est pas ce qu'il aurait fallu.
Et est-ce que, la question de Frédéric Borgia, ce n'est pas aussi, est-ce que finalement, c'est encore possible un Lino Broca? Est-ce que finalement, c'est encore possible un Abbas Kiarostami?
Oui, c'est possible, avec maintenant les moyens. Attendez, vous avez un appareil de photo qui fait des films, mais d'abord qui ne coûte rien. Il n'y a pas à porter des caméras, etc. à non plus finir. Et les films sont merveilleux. Donc en réalité, n'importe quel jeune, ciné-fondation ou pas, dans n'importe quel coin du monde, qui a vraiment envie de faire un film, à condition qu'il ait vécu. Parce que c'est pas le tout de tourner des images. Il faut aussi avoir des expériences, avoir ressenti des choses qui, où tout d'un coup le talent s'exprime. Et alors là, oui, c'est beaucoup plus facile de se faire connaître, jeune inconnu, parce que il y a plein de festivals dans le monde, il n'y a pas que Cannes. Il y a des plus petits festivals, il y en a d'autres. On peut toujours être vu quelque part et être découvert quelque part, car à la fois les directeurs de festivals et les critiques ne pensent qu'à ça, découvrir, et ils ont bien raison.
Alors place aux jeunes, mais aussi place aux femmes. Notre cadeau de la marche du monde pour vous, Gilles Jacob.
J'apprécie beaucoup la leçon de piano. La musique de la leçon de piano, écoutez, vous tombez bien, vous parlez à quelqu'un qui adore les femmes, mais pas seulement les comédiennes. Toute ma vie, j'ai travaillé avec des femmes. Je suis entouré de personnes personnel féminin pour différentes raisons, et notamment la première, les femmes n'ont jamais la grosse tête et surtout, elles ne cherchent pas à faire carrière. Elles travaillent, elles sont obligées de travailler plus dur que les hommes pour être connues et elles le font très bien. Et donc ça, je l'ai toujours apprécié, je me suis toujours entouré de personnes qui m'ont vraiment jamais déçu.
Jane Campion, réalisatrice distinguée, aimée par vous, Gilles Lacombe. Pourquoi si peu de femmes ? Pourquoi si peu de femmes ?
Ah, alors, la défense du festival, elle n'est pas fausse, et de dire que c'est pas le festival qui ne choisit pas les femmes, c'est que le cinéma mondial leur fait mille difficultés, parce que les femmes ont été très longtemps confinées dans des métiers subalternes, tout à fait honorables, mais le métier roi, c'est metteur en scène, éventuellement producteur, mais les femmes ont été cantonnées dans des scripts, dans les montages, aussi chef opérateur, c'est des métiers magnifiques, mais le mieux, c'est quand même le grand patron.
Alors à Ciné Fondation, il y a des filles ?
Oui, il y a des filles. On fait très attention. À la fois, les jurys sont à parité et il y a beaucoup de femmes choisies à la Ciné Fondation, absolument.
Merci beaucoup, Gilles Lacombe.
Merci à vous.
Cannes, une histoire mondiale, c'était une marche du monde signée Valérie Nivelon et mise en onde par Elliot Bourrel avec la complicité d'Aurélien Moisan pour les archives de RFI et de l'INA. Plus d'infos sur notre page de la marche du monde sur RFI.fr. Écrivez-nous, réagissez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.